Bonsoir Estelle Schmitt.
Bonsoir.
L'essentiel de ce lundi 28 octobre commence à Bayonne.
Et une attaque à l'entrée d'une mosquée cet après-midi. Deux hommes blessés par balle. Le suspect, un homme de 84 ans, interpellé. Il aurait été candidat pour le Front National en 2015. Pas de lien à ce stade de l'enquête entre les ossements de Sophie Le Tan retrouvés dans une forêt du Bas-Rhin et le principal suspect Jean-Marc Reiser, selon la procureure de la République de Strasbourg. Un TGV sur trois circulera demain sur l'axe Atlantique. Grève d'agents spécialisés dans la maintenance en banlieue parisienne. Elle se poursuit, précision dans ce journal. Une femme élue maire de la capitale, une militante homosexuelle jugée incorruptible. Petite révolution depuis hier soir en Colombie. Et puis après, Google, Facebook dit non aux droits voisins alors que la loi est entrée en vigueur il y a moins d'une semaine. Facebook réalise un véritable tour de passe-passe. Alexandra Akou nous expliquera.
À 18h15, un jour dans le monde, nous sommes au Liban ce soir au lendemain d'une démonstration d'unité de la population. Une immense chaîne humaine, un soulèvement qui dure, il est sans précédent. Et passionnant à expliquer, c'est ce que nous ferons avec le premier invité. Le bruit du monde ce soir est au Mexique, aux prises avec ses propres migrants, ceux qui viennent d'Amérique centrale et de Cuba. Et puis 19h20, le téléphone sonne. Comme chaque année, nous accompagnons le mois sans tabac. Ça veut dire qu'il vous reste 4 jours pour arrêter de fumer, comme vous le voudrez d'ailleurs. Sauf qu'on ne peut pas ne pas se poser la question, est-ce qu'on substitue vraiment la cigarette à la vapoteuse? Alors est-ce qu'on doit s'inquiéter réellement des morts et des restrictions aux États-Unis? Est-ce que les Américains ont paniqué ou trafiqué leurs cigarettes? Le numéro, vous l'avez, 01 45 24 7000.
France Inter.
Feu donc à proximité de la mosquée de Bayonne cet après-midi et au moins 2 personnes blessées.
2 blessés par balle, l'une au thorax, l'autre au bras. 2 hommes. Le tireur présumé a lui d'abord tenté de mettre le feu à la porte de la mosquée. Surpris par ces hommes, il leur a tiré dessus. Il s'agit d'un octogénaire arrêté près de son domicile à Saint-Martin-de-Seignanx, c'est dans les Landes. Un ancien militaire, une arme à feu, une bonbonne de gaz ont été retrouvés dans sa voiture. Précision France Bleu Pays Basque, Nathalie Bagdasarian.
La mosquée est située derrière un centre commercial au nord de Bayonne. La mosquée se voit à peine cachée par des maisons. Il faut donc connaître précisément l'accès. C'est peu après 15h qu'une voiture s'est garée sur le parking. Un homme en est sorti, a jeté un engin incendiaire, provoquant tout de suite un violent incendie. Panique chez les quelques fidèles qui étaient sur place avant la prière de 17h. L'homme aurait aussitôt sorti une arme, tiré à plusieurs reprises, blessant 2 personnes. L'une gravement au thorax, l'autre au bras. Le tireur se serait ensuite aussitôt enfui à bord de sa voiture pour être une demi-heure plus tard arrêté à quelques mètres de son domicile dans les Landes à Saint-Martin-de-Seignanx. Au moment de son arrestation, il aurait tenté de saisir son arme, un Smith & Wesson de 9 mm sur le siège du passager. Une bonbonne de gaz aurait été retrouvée dans sa voiture. À Bayonne, Nathalie Bagdasarian, France Bleu Pays Basque pour France Inter.
Et un fidèle était présent sur place, il a porté les premiers secours aux 2 blessés. Il raconte la scène.
J'ai entendu déjà un hurler, donc je suis parti sur le côté de la mosquée. Là, j'ai vu une voiture qui était en train de prendre feu. Il y avait un corps en dessous, il y avait quelqu'un en dessous, une victime. Donc je me suis approché de lui, je l'ai tiré avant que la voiture elle explose, parce qu'elle était déjà bien en feu. D'ailleurs, je me demande même s'il n'y a pas eu de l'essence ou quoi, parce que c'est pas possible qu'elle ait pris aussi vite. J'ai tiré le monsieur était rempli de sang, donc j'ai mis en sécurité, en position latérale de sécurité. Il avait, aux dernières infos, je sais qu'il avait mal surtout le côté droit. Il a pris des balles. Donc on a quand même appelé les secours avant et je prenais soin de lui parler, de le garder éveillé. Il y a une autre personne qui était, elle, un peu mieux malgré qu'elle soit quand même victime. Cette victime a pris une ou deux balles au niveau du bras. Et les deux, donc, ils ont été amenés par le SAMU à l'hôpital.
Témoignage recueilli par nos confrères de France Bleu Pays Basque. L'individu interpellé aurait été candidat du Front National en 2015 lors d'élections locales. Ce soir, le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, exprime solidarité et soutien aux musulmans. Elle reste très prudente, multipliant les « pour l'instant » et « à ce stade ». La procureure de la République de Strasbourg a fait un premier point cet après-midi concernant les ossements de Sophie Le Tan retrouvés dans une forêt du Bas-Rhin. Cette étudiante de 20 ans disparue il y a plus d'un an alors qu'elle allait visiter un appartement dans la banlieue de Strasbourg. Le principal suspect, le propriétaire de cet appartement, Jean-Marc Reiser, a toujours nié malgré des traces de sang trouvées sur des objets qui lui appartiennent. Et bien selon la procureure, les os retrouvés n'auraient pour l'instant pas de lien avec lui. Yolande Renzi.
L'examen de ces ossements a permis la réalisation d'un certain nombre de prélèvements, notamment sur les 2 humérus. Le profil génétique de Sophie Le Tan a été mis en évidence par le laboratoire de police scientifique de Paris. En quelque sorte, et si vous me permettez l'expression, il va revenir aux experts de faire parler ces ossements à l'aide de toutes les nouvelles technologies dont ils sont en possession. Pour l'instant, aucun élément ne me permet et ne permet aux enquêteurs de faire le lien avec monsieur.
Yolande Rezni, procureure de la République de Strasbourg. Patrick Balkany reste pour le moment en prison, mais la justice est allée dans son sens. Aujourd'hui, la première demande de mise en liberté du maire, les Républicains de Levallois-Perret, incarcéré depuis maintenant 6 semaines, est acceptée par la Cour d'appel de Paris. La demande concernait le volet fraude fiscale, mais elle ne sera pas appliquée tout de suite, car la justice ne s'est pas encore prononcée sur le second recours. Et la date d'audience pour ce second recours n'est pas encore fixée.
Il est 18h06 sur France Inter, toujours aussi peu de trains en circulation ce soir sur l'axe atlantique.
3 TGV sur 10 demain. Grève au Technicentre de Châtillon dans les Hauts-de-Seine. La majorité des trains sont retenus dans le centre et le dialogue social n'avance pas. C'est un peu la confusion d'ailleurs sur la suite de ce mouvement. On y reviendra dans le journal de 19h. En tout cas, on en sait un petit peu plus ce soir sur le trafic des trains demain, Emeline Ferry.
Oui, la SNCF vient d'annoncer que 34% des TGV circuleront demain sur le réseau atlantique. C'est à peine un peu plus que les 30% d'aujourd'hui. Une légère amélioration donc, car quelques rames étaient en maintenance sur un autre site de Châtillon et elles ont pu être récupérées. Mais le trafic sera encore très très perturbé demain. Une poignée de trains ont été ajoutés pour rejoindre Bordeaux et Nantes. Comptez 6 allers-retours entre Paris et Bordeaux, 5 liaisons entre Nantes et la capitale au lieu de 2 aujourd'hui. Pour les usagers qui partent ou qui arrivent de Rennes, pas de changement, toujours seulement 2 allers-retours dans la journée. Les lignes vers Toulouse, Hendaye et Brest seront encore très perturbées. Seul un Quimper-Paris est annoncé. C'est demain. Même chose pour le Poitiers-Paris. Le seul train en direction de la capitale partira à 8h. Et comme hier, les usagers sont prévenus par SMS ou par mail si leur train est supprimé. Pour échanger son billet sans frais ou se faire rembourser, direction le site de la SNCF.
Merci Emeline Ferré. En région Provence-Alpes-Côte d'Azur, à présent touchée par un autre mouvement de grève locale, le trafic est désormais revenu à la normale. Sévèrement recadré, le PDG d'EDF, Jean-Bernard Lévy, a un mois pour présenter un plan d'action pour la filière nucléaire. À demande du ministre de l'économie Bruno Le Maire ce matin, notamment pour remédier au problème de l'EPR de Flamanville qui aurait dû entrer en vigueur en 2012. Le constat d'échec et la demande font suite à un rapport d'une trentaine de pages remis tout à l'heure au gouvernement par l'ancien patron de PSA, Jean-Martin Fols.
Force est de constater que l'ensemble de la filière nucléaire a besoin de reconstituer et de maintenir ses compétences. Nombre des difficultés apparues pendant la construction de l'EPR montrent l'attention qu'il convient de porter au métier du soudage. Il faut manifestement reconstituer une réserve de professionnels qualifiés dans cette discipline exigeante. Cela passe par un effort d'investissement et de recrutement. Et celui-ci ne pourrait être entrepris que devant des perspectives suffisantes et pérennes d'activité. Autrement dit, il s'agit d'afficher des programmes stables à long terme de construction de nouveaux réacteurs et d'entretien du parc existant.
Jean-Martin Fols, auteur du rapport d'audit réalisé à la demande du PDG d'EDF.
Le coup de gueule d'SOS Méditerranée et Médecins Sans Frontières
oui,
aussi.
Les deux ONG lancent un appel aux dirigeants européens pour qu'ils autorisent le débarquement des 104 personnes secourues par leur navire, l'Ocean Viking, au large de la Libye et bloquées en mer depuis 10 jours maintenant. La plupart originaires d'Afrique de l'Ouest et tous ont déclaré avoir été victimes ou témoins de violences physiques et sexuelles durant leur périple, d'où la colère de Sophie Beau d'SOS Méditerranée.
Il y a 104 survivants qui sont à bord. Avec des personnes très vulnérables, beaucoup de mineurs, des femmes enceintes, des enfants. C'est une triste routine, ça fait 16 mois maintenant que depuis que l'Italie a fermé ses ports en juin 2018, il y a eu des discussions à chaque fois que des personnes ont été secourues en mer Méditerranée centrale pour savoir où elles vont être débarquées. Les États côtiers ont l'obligation d'organiser un débarquement sans délai pour que les rescapés puissent être remis dans un lieu sûr. Bien évidemment, ça ne peut pas être la vie. Nous avons eu une indication, enfin un échange avec les gardes-côtes libyens après le sauvetage qui nous ont indiqué le port de Tripoli, ce qui n'est absolument pas possible au regard du droit international. Une fois de plus, on retombe dans ces discussions entre États européens pour savoir qui va accueillir les rescapés. Ce qui est vraiment triste parce qu'on avait eu l'impression ces derniers mois il y avait quand même des progrès dans les discussions pour aller vers un mécanisme prévisible de débarquement coordonné entre les États européens.
Des propos recueillis par Philippe Randé. Les députés britanniques devraient voter tout à l'heure, se prononcer sur les élections anticipées que souhaite le Premier ministre Boris Johnson. Un vote alors que les pays membres de l'Union européenne sont tombés d'accord pour reporter la date butoir du Brexit au 31 janvier. Le couvre-feu instauré à Bagdad en Irak par l'armée de minuit à 6h du matin. Réaction à des manifestations d'étudiants et d'écoliers dans les rues de la capitale et nombreuses autres villes du sud pour réclamer la chute du régime. L'armée menace également de sanctions, fonctionnaires et étudiants qui ne se présenteraient pas au cours ou au travail. Au moins 239 personnes ont été tuées, plus de 8000 blessés selon un bilan officiel depuis le début du mouvement de contestation 1er octobre. Sans grande surprise, en Argentine, la bourse perd près de 3% à la mi-journée après la victoire du péroniste de centre-gauche Alberto Fernandez, l'Argentine engluée dans la récession. Sa victoire est courte, 35,2% des voix, 3 points d'avance à peine sur son adversaire libéral. Mais Claudia López, 49 ans, candidate de centre-gauche, a été élue hier maire de Bogota, capitale de la Colombie. Première femme à occuper ce poste, une femme ouvertement lesbienne, considérée comme incorruptible. Et elle a, Nadine Epstein, dès hier soir appelé à un changement de société.
Aujourd'hui, Bogota a voté non seulement pour que la ville change dans les 4 années à venir, mais aussi pour que cette génération change notre société. La capitale a voté pour que nous nous libérions du machisme, du racisme, du classicisme, de l'homophobie et de la xénophobie. C'est ce que déclarait Claudia López, dont la victoire historique est immortalisée par une photo d'un baiser à sa compagne. Claudia López, qui était docteur en sciences politiques, puis consultante pour les Nations Unies, puis sénatrice, s'est fixé 2 priorités pour la ville où elle est née en 1970. 1. Une meilleure sécurité et 2. La réalisation du métro dans cette métropole où vivent plus de 7 millions d'habitants, réputée pour ses embouteillages et sa pollution. En choisissant la candidate de la coalition entre le Parti Vert et le Pôle Démocratique, les Bogotanais ont élu une opposante de la droite conservatrice qui gouverne le pays depuis plus d'un an. D'ailleurs, le parti du chef de l'État, Iván Duque, le CD, le Centre Démocratique, est suit un échec dans les 2e et 3e villes colombiennes, Medellín et Cali.
Merci beaucoup Nadine Epstein.
Il n'a pas fallu longtemps à Facebook pour trouver comment détourner la loi.
Oui, la loi entre en vigueur jeudi dernier qui donne droit à une rémunération des éditeurs de presse français pour le partage de leur contenu, les droits voisins. La solution de Facebook est toute simple, modifier les paramètres d'affichage des articles de presse. Bonsoir Alexandra Akoun.
Bonsoir.
Alors, les éditeurs ce soir crient au danger pour la démocratie.
D'abord, oui, parce qu'il y a un procédé extrêmement douteux derrière tout cela. Facebook, ces dernières semaines, assurait être en négociation avec les éditeurs français. Et puis vendredi, au lendemain donc de l'entrée en vigueur de la loi, le réseau social a annoncé que désormais, les articles de presse partagés par les internautes, ce sera un lien, un titre et un lien, point barre, plus de photos, plus d'extraits, qui eux donneraient droit à une rémunération. Une catastrophe évidemment pour les éditeurs, d'abord en termes de visibilité. François Clavry est directeur général du Point et vice-président du syndicat des éditeurs de la presse magazine.
Pour l'éditeur, plus l'article se propage, plus ça lui donne de la visibilité. Et plus il est enrichi, a priori, plus il attire l'attention des internautes, puisque c'est bien ça dont on parle, c'est une bataille de l'attention. On a l'impression qu'ils nous rendent service en nous mettant à disposition des nouvelles modalités d'enrichissement du contenu, alors que c'est simplement une façon de nous extorquer une diffusion de nos contenus sans rémunération.
Une extorsion que les éditeurs jugent également dangereuse pour la démocratie, car si les contenus des médias deviennent moins attractifs que ceux de sites farfelus, conspirationnistes ou que sais-je, eh bien, selon le président de l'Alliance de la presse d'information générale, Jean-Michel Baillet,
c'est le royaume des fake news et c'est la dégradation de l'information. Et au-delà, c'est quand même des procédés antidémocratiques, car le Parlement européen a voté une directive, le Parlement français a traduit cette directive dans une loi, et Facebook et Google disent « ben, c'était pour rire ». On ne l'applique pas.
Les éditeurs à ce stade espèrent donc encore pouvoir négocier avec Facebook. En cas d'impasse, ils pourraient porter plainte contre les réseaux sociaux comme ils l'ont déjà fait avec Google.
Merci pour ces précisions, Alexandra Akoun.
Et Estelle Schmitt, merci beaucoup.